au-delà de l'avion, c'est comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert.
Okay, moi j'ai un passage de vie.
France Culture.
Je m'y retrouve pas du tout aussi bien que Michel Esco dans la recherche en fait. Il faut.
Le Book Club.
Là, ça c'est des films, c'est pour montrer que j'ai plus de films que de livres. Ça c'est les chambres, c'est mes filles. Ça c'est mes textes que je recopie.
Dans la bibliothèque de Michel Esco.
Et ça c'est ma table de nuit.
Ah ok, super. Voilà, bah, on les garde.
Oui, bah, j'ai mis là.
Marie Richeux.
Ok, on verra.
Ouais.
Allez. Nous avions commencé depuis plusieurs semaines ces portraits de bibliothèque pour le Book Club quand je me suis trouvée nez à nez à la Maison de la Poésie à Paris avec une œuvre du cartooniste Tom Gold. C'est un dessin de bibliothèque où les tranches de livres colorés renvoient à une légende précise. Jaune, c'est pour lu. Orange, c'est bientôt lu. Bleu clair, c'est à moitié lu. Bleu foncé, c'est prétendument lu. Rose, c'est à lire quand j'aurai plus de temps. Vert, c'est qu'on ne lira jamais. Rouge, c'est juste pour la frime. Ocre, c'est lu mais impossible de me souvenir d'une ligne. Et noir, c'est j'aurais préféré ne pas le lire. Alors évidemment, ça m'a fait sourire ce grand mur de couleurs. Aujourd'hui, on visite la bibliothèque du comédien Michel Esco. Il y a certainement un peu de toutes ces teintes dans sa bibliothèque, mais on pourrait définitivement rajouter une nuance pour les textes joués au théâtre ou portés au cinéma, tant la relation à ces deux arts semble importante au cœur de ses lectures. Bonjour Michel Esco.
Bonjour.
Merci beaucoup de faire entrer un petit peu de votre bibliothèque dans notre studio pour nos auditeurs. Est-ce que ça vous parle, ce classement par couleur ?
Oui, beaucoup. Alors, par contre, ce que j'ai prétendu... Enfin,
prétendument lu, il n'y a pas ?
Non, pas du tout. Je ne peux pas le faire, ça. Non, je mentirais pas.
Il n'y a pas dans votre bibliothèque des livres prétendument lus ?
Non.
Ils sont ou bien lus ou bien pas lus.
Exactement. Et je ne dis pas que j'ai lu quelque chose que je n'ai pas lu.
Vous n'avez pas de rapport social à la lecture au sens que ça vous permettrait de briller ?
J'assume mon inculture.
Bon, alors, est-ce que vous voulez bien qu'on se téléporte comme ça, oui, mentalement dans votre appartement,
oui,
et qu'on essaye de décrire les différents endroits où il y a des livres?
Alors, il y a une petite... Il y a ma bibliothèque, hein, si on veut, qui n'est pas bien grande parce que je me débarrasse en fait des livres que j'ai lus et que je n'ai pas forcément envie de garder. Il y a des livres un peu d'art quand même, un petit peu. Après, il y a quelques romans. Il y a beaucoup de pièces de théâtre, forcément. En face, il y a des films. Alors, c'est pas pareil, mais il y a plus de films que de livres, je pense.
Donc, des DVD,
des DVD,
quoi,
des Blu-ray.
De... Ouais.
Voilà. Et quelques cassettes vidéo, peut-être, qui restent. Mais j'ai même plus l'appareil pour les lire, mais voilà. Et après, il y a, dans la chambre de mes filles, il y a leur bibliothèque à elles, quand même, qui est un petit peu bordélique. Enfin, c'est des tables, et puis il y a une petite étagère. Et sur ma table de nuit, quand même, il y a toujours des livres.
C'est quoi le statut des livres sur la table des nuits ?
Bah, c'est des choses du moment, c'est le travail en fait. C'est le travail du moment. Et alors, il y a des choses que je n'ai pas forcément fini de travailler, mais même si j'ai... Il y a Ernst Kantorowicz sur Les deux corps du roi, Shakespeare. Ça, c'est assez balèze. Mais on peut toujours se plonger dedans. Et dès que je pense à Richard II, que je vais rejouer, je replonge un peu là-dedans. Et puis là, il y a des livres sur Fouché. Il y a une biographie de Stefan Zweig et il y a Une ténébreuse affaire de Balzac. Parce que c'est sur le personnage de Fouché. Je vais travailler là-dessus. Donc, voilà.
Lecture-travail sur la table
exactement,
de nuit.
Exactement. Ouais.
Quand vous dites que vous avez de moins en moins de livres, ça veut dire que ça se passe comment? Vous les jetez, vous les donnez, vous les prêtez, vous ne les redemandez pas?
Voilà, exactement. Et puis il y a même une étagère dans mon immeuble en bas où on peut se débarrasser de quelques livres et je trouve ça très bien et j'en descends de temps en temps. Ouais, assez souvent même. Et j'ai pas. Enfin, peut-être plus tard j'aurai une très belle bibliothèque. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et j'ai déménagé, voilà. Et donc, j'ai pas pris énormément de livres, mais ça se remplit, hein, quand même. Ça se remplit. Ouais.
Comment vous qualifieriez cette bibliothèque? Elle est quoi, alors, si elle est pas très, très belle?
Elle est humble.
Dans quel sens du terme, c'est-à-dire?
Bah, elle en jette pas trop, quoi. Elle est pas. Même les beaux livres, ils sont derrière, ils sont pas tellement mis en valeur. Elle est fonctionnelle, je dirais.
Ça raconte quoi comme rapport à la lecture et au livre ?
Une certaine modestie et même un côté un petit peu impressionné par la lecture. J'ai toujours été un peu impressionné par ça parce que j'ai raté le train à prendre à l'école, en fait. J'ai pas bien travaillé à l'école et j'étais avec un grand frère qui était très, très, très... qui était un littéraire, quoi, vraiment, et ses amis aussi. Et donc, j'avais un petit complexe. J'en rajoutais un peu dans le côté Benet, j'ai jamais rien lu. Ce qui est pas vrai, hein. J'avais lu des choses. Et donc, je disais toujours, j'ai lu un livre. Et c'était Newark. Cette espèce de... roman d'anticipation, et c'est vrai que je l'avais lu, mais voilà, en fait j'avais lu d'autres choses, mais
vous en faisiez un gimmick pour réserver votre lecture à ça.
Pour jouer un peu le benêt, quoi, pour dire moi j'ai lu un livre et j'en ne lirai qu'un, et c'est New York.
Oui, voilà. Pourtant vous l'avez redit quand on vous a posé des questions sur les livres, vous avez parlé de New York.
Ça m'a marqué finalement, à force de faire l'idiot, je m'en suis rappelé, quoi. Et c'est peut-être pas mal d'ailleurs, New York, je sais plus maintenant, mais je crois que
Je peux dire à nos auditeurs, c'est un texte de 1957 qui est signé par Stéphane Vulle, oui, écrivain de science-fiction français. Qu'est-ce qu'il raconte?
C'était un peu comme la planète des singes, je crois. On se rend compte, enfin, c'est des hommes préhistoriques, ils habitent à New York, et puis à la fin, on comprend que c'est New York, et que c'est post-apocalyptique. C'est le souvenir que
ça vous a laissé.
Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire?
Oui. J'étais dans une école de campagne avec mon frère, justement, comme dans le film Être et Avoir de Nicolas Philibert. Donc, il y avait une rangée par classe. Et j'étais le premier à avoir lu dans ma classe, mais on était deux.
Deux dans la classe.
On était deux dans la classe. Mais j'avais gagné mon baptême de l'air quand même, parce que j'avais appris apparemment assez facilement. Donc j'avais gagné un baptême de l'air, mais j'avais déjà pris l'avion.
Mais un vrai baptême de l'air ?
Oui, incroyable. Dans un coucou. Ouais. C'était le truc. Et donc j'avais gagné, mais en fait c'était de l'arnaque parce que j'avais déjà pris l'avion.
Donc c'était un faux baptême de l'air, mais quand même, ça veut dire qu'il y a dans votre vie, Michel Esco, une sorte de concomitance entre apprendre à lire et s'envoler, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et décoller,
quoi. Et décoller, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cet apprentissage-là, cette école de campagne ?
Ah, c'était très à l'ancienne, hein. Ça ressemblait à la Troisième République, c'est-à-dire une institutrice très, très... qui tapait les élèves, enfin... Nous, on avait une bonne image d'elle, je crois, mais après, si on se rappelle des choses, je me rappelle qu'on se prenait des tartes quand même, et que c'était très sévère, voilà. Et en même temps, ma mère partait en voyage pendant très longtemps, parfois pour son travail, et avec mon frère, on habitait chez l'institutrice.
C'était quand même un personnage important de votre enfance.
Un peu craint, et en même temps, assez maternelle. Elle était sympa, je crois. Enfin, c'était les deux, quoi. Mais donc, voilà, j'ai des souvenirs... De justement d'aller à l'école et d'être dans le préau, et les enfants partaient et je restais dans l'école parce que je dormais là, en fait.
Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez peut-être pas pris le train de la lecture ou le train scolaire.
C'est un petit peu refroidi, c'est vrai. Je sais que David, mon frère, il en garde un meilleur souvenir que moi, mais je ne sais plus après. C'est pas non plus un trauma, hein, ça va.
Quand est-ce que vous avez commencé à lire pour vous-même, avec plaisir?
En fait, c'est le théâtre. En fait, c'est le théâtre, parce que là, j'étais bien obligé de le faire. Et puis, et même au début, c'était un peu difficile. Et puis, je crois qu'il y a eu une pièce. Enfin, c'est quand j'ai dû jouer Victor, les enfants au pouvoir, au conservatoire. Et après, on l'a refait. Là, tout à coup, j'avais la langue... Ce que disait le personnage de Victor, tout à coup, ça m'a touché en plein cœur, quoi. Et donc là, j'avais un avis sur ce que j'avais à faire. Enfin, plus qu'un avis, j'avais une mission, quoi. Il fallait que ça passe par moi.
Vous avez quel âge, à ce moment-là ?
20 ans. Une vingtaine d'années, je pense. Oui, c'est ça, 20 ans. On m'en parlait beaucoup de ce texte, mais je ne l'avais pas lu, pareil. Et puis, tout à coup, je l'ai lu, et là, j'ai eu envie de le faire. Et je suis très bien tombé, parce que j'ai passé une scène à mon professeur du conservatoire, qui était Philippe Adrien, et après cette scène, il a dit « Bon, on va monter toute la pièce avec Micha ».
Donc, il y a quand même l'ouverture à la fois de la lecture et du grand bain, le baptême de l'air, mais plutôt vers le théâtre.
Ouais.
On va écouter une archive de Jean Anouilh, qui parle de cette pièce Victor, ou Les enfants au pouvoir. Ouais. C'est donc une pièce de 1927.
J'aime beaucoup cette pièce, c'est d'ailleurs très faible, j'aime beaucoup, j'admire cette pièce depuis très longtemps, et j'ai toujours pensé à Victor, car j'étais lié d'amitié avec Vitrac, et c'était la pièce de lui qui me touchait le plus, que j'admirais le plus. Je l'ai relu bien des fois depuis sa mort, en pensant à lui, et puis il y a 2 ans, j'ai senti tout d'un coup qu'il fallait la faire vivre, parce qu'on ne la connaissait pas et que c'était une chose extraordinaire. Ça n'est pas une satire de la bourgeoisie, non. C'est en effet un milieu petit bourgeois où se déroulent des choses ridicules et outrées, mais en vérité, c'est une pièce sur la... C'est très prétentieux, et Vitrac, Dieu merci, a fait une pièce drôle et n'a pas pensé à ça. Mais en fait, c'est une pièce sur la condition humaine, sur la réalité, car je prétends que dans cette pièce, sous les outrances comiques, c'est la réalité, c'est la vraie réalité que l'on voit, alors que la réalité de la vie, nous nous sommes habitués de lui avoir donné une forme conventionnelle, et là, c'est la réalité crue.
«
C'est un archive de Jean Anouilh. Il monte cette pièce en 1962. Apparemment, ça fait que les critiques comprennent un peu plus l'importance de la pièce. Une pièce qui date de 1928. Ça fait partie des livres que vous avez évoqués lorsqu'on a parlé des moments étapes pour visiter votre bibliothèque, Michel Escaut. Il est question de quoi dans ce texte avant que vous nous en lisiez un extrait?
C'est comme Hamlet un peu. En fait,
ni plus
c'est...
ni moins.
Oui, vraiment. Non, mais il y a énormément de références à Hamlet. Je n'avais pas forcément compris à l'époque, mais maintenant, en re-regardant ça un petit peu, je ne le jouerai plus, hein, mais je vois qu'en fait, c'est une espèce de relecture d'Hamlet avec un enfant là, de 9 ans. Enfin, il pousse le bouchon un petit peu plus loin et puis il en fait quelque chose de soi-disant absurde. Mais c'est vrai ce que disait Jean Anouilh, c'est finalement, Victor, il dit la vérité, en fait. Et ça fait un ravage dans sa famille à partir du moment où il dit la vérité, le jour de ses 9 ans. Et ça commence par une scène où il casse un vase volontairement et il dit à la bonne « Ah bah mince, tu as cassé le vase ». Alors elle lui dit « Mais non, c'est toi qui as cassé le vase ». Il dit « Non, c'est toi parce que moi j'ai jamais rien cassé, toi t'as déjà cassé la tasse, l'assiette, donc si je m'accuse, ça marchera pas, on va forcément croire que c'est
donc
toi ».
Donc c'est pas la vérité ?
Non, mais justement il lui explique pourquoi il va... Ah non, lui après il va dire la vérité, mais c'est un grand manipulateur et c'est un ange exterminateur. Mais il va dire au bout d'un moment toutes les hypocrisies, tous les petits arrangements, il va les mettre à jour, quoi.
Et vous, alors, à 18-19 ans, c'est quelque chose qui vous plaît, l'idée que du haut de ses 9 ans, quelqu'un puisse dire la vérité
et... Voilà, comme si il s'était empêché jusque-là, puis tout à coup, il parle. Et ça fait un cataclysme. Et il en meurt, hein, d'ailleurs. Mais ils meurent tous, je crois, dans la pièce. Enfin, ça finit très mal.
Parce qu'on parle souvent de la littérature comme étant aussi des moments d'ouverture, des moments où on se déplace comme ça dans la vie. Et vous diriez que cette pièce-là, sans après coup reconstruire des choses trop grosses, mais ça vous a déplacé à quel endroit ?
Enfin, c'est plus ça m'a ouvert, disons. Ça m'a donné le goût de m'intéresser à quelque chose d'autre, au style, et tout à coup avoir une opinion sur ce que j'avais envie de jouer et de ne plus être... un suiveur et un bon élève, quoi, en fait. Bon, j'ai jamais été un bon élève, mais en tout cas, de bien faire ce qu'on me demandait de faire, de dépasser un peu la demande, quoi, et d'avoir tout à coup une proposition.
Et voilà, quelque chose à vous.
Et quelque chose à moi, évidemment, mais c'est parce que ça m'a touché directement. Mais quelqu'un d'autre pourrait lire ça et ça lui ferait rien. Donc je pense pas que ce soit les œuvres qui changent, c'est est-ce qu'au contact d'une écriture, on a envie nous-mêmes de changer, de bouger quelque chose, quoi, comme vous dites.
Ouais, est-ce que vous voulez bien en lire un extrait ?
Oui. Alors,
on peut dire quelque chose de cette petite édition que j'adore. Je ne sais pas si c'est celle-ci.
Si celle-là, bien sûr. Le manteau d'Arlequin, ouais.
Elle est rouge et noire, elle est toute fine. Ouais. Ça sent les études de théâtre, un peu le lycée, le collège éventuellement, pour ceux qui rencontrent le théâtre avant.
Oui. Moi, je l'avais, mais alors elle était tellement abîmée parce que je l'avais quand même bien griffonnée. Alors, et donc, il a cassé le vase et la bonne, qui s'appelle Lily, lui dit « Mais Dieu du ciel, qu'est-ce que tu as ? Qu'as-tu ?» Et Victor lui dit « J'ai 9 ans. J'ai un père, une mère, une bonne. J'ai un navire à essence qui part et revient à son point de départ après avoir tiré 2 coups de canon. J'ai une brosse à dents individuelle à manches rouges, celle de mon père a le manche bleu, celle de ma mère a le manche blanc. J'ai un casque de pompier avec ses accessoires qui sont la médaille de sauvetage, le ceinturon verni et la hache d'abordage. J'ai faim, j'ai le nez régulier, j'ai les yeux sans défense et les mains sans emploi parce que je suis trop petit. J'ai un livret de caisse d'épargne où l'oncle Octave m'a fait inscrire 5 francs le jour de mon baptême avec le prix du livret et du timbre, ça lui a coûté 7 francs. J'ai eu la rougeole à 4 ans et sans le thermomètre du docteur Ribior, j'y passais, je n'ai plus aucune infirmité, j'ai la vue bonne et le jugement sûr et je dois à ses dispositions de t'avoir vu commettre sans motif un acte regrettable. La famille appréciera.
Oh là là, oui, c'est un petit diable en fait, Victor.
Il est très dur aussi, mais pas que. C'est-à-dire au bout d'un moment, il y a un côté désespéré et c'est un fils unique. Il y a toute une partie aussi sur l'unica, je me souviens à la fin, qu'on avait coupé d'ailleurs dans la mise en scène, mais ça m'avait quand même marqué. Il y avait plein de choses comme ça.
Ça fait un petit moment quand même cette mise en scène. Oui. On est 1999, donc c'est on ça. Va dire presque 25 ans, Michel Escaut. En relisant ça, puisqu'on le dit depuis le début, il y a vraiment un lien entre la lecture, votre rapport à la lecture et le théâtre ou le cinéma, enfin le fait de jouer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'il y a 25 ans, c'est-à-dire un petit nombre d'années qui revient ?
Mais en fait, je ne l'avais pas vraiment relu depuis, et je vois que j'ai le même phrasé, j'ai la même conclusion, et je me souviens des gestes, là, en le faisant devant vous, je me souviens des gestes que je faisais à ce moment-là, parce que j'avais toute une petite chorégraphie, c'était un peu illustratif, maintenant je le ferais peut-être un petit peu différemment, mais en tout cas, ça a son charme, et je me suis senti bouger en le lisant.
Est-ce qu'il existe cet exemplaire dans votre bibliothèque actuelle ?
Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus la couverture, il n'y a plus que Elle a sauté, elle a disparu la couverture.
Il est très annoté.
Il est pas tellement annoté, il est corné quoi. Enfin, il est un peu abîmé quoi. Puis ça, il y a plus la couverture. Mais oui, c'est la même édition, je l'ai
encore. Ça veut dire que tout ce que vous jouez a toujours une place dans votre bibliothèque.
J'ai dû perdre quelques exemplaires, mais en tout cas celui-là, il y est. Ouais, il y est. Et aussi, il y a aussi mes cahiers que j'ai recopiés pour les apprendre, parce que c'est comme ça que je fais. Et donc ça, je les garde. Alors j'en ai un peu à la cave, mais sinon, il y en a quand même chez moi les trois dernières années, je dirais. Donc ça fait pas mal de cahiers quand même.
Oui, tout à l'heure, quand vous montriez quelques photographies des endroits où on peut trouver des livres chez vous, ouais. Sur le même plan que la bibliothèque où il y avait quand même en bonne et due forme des livres, et puis la bibliothèque de vos filles où il y avait en moins bonne et due forme, mais des livres aussi, vous avez photographié ces cahiers de recopiage. Voilà. Ce sont des livres à part entière pour vous.
Bah oui, en fait, oui. C'est des livres, voilà. Enfin, c'est des pièces de théâtre ou des scénarios, mais des scénarios, mais pour moi, ça a la même valeur. Et je les garde, en fait.
Comment ça se passe? Vous vous mettez à table et vous travaillez des textes et vous les recopiez?
Exactement. Alors, c'est plus ou moins long, hein, mais ça peut prendre quand même du temps. Et alors après, comme j'ai mes cahiers, c'est des cahiers de travaux pratiques, il y a une page d'écriture, une page pour faire des petits dessins. Et alors après, je sais à peu près, pas forcément le temps que je vais mettre, mais le nombre, c'est pas le nombre de caractères, mais un grand, grand rôle, il y a deux cahiers. Et puis parfois, vous croyez que vous avez un très grand rôle, puis il n'y a qu'un seul cahier, alors on dit « ah bon ». Et puis parfois, il y a des rôles très importants, mais il n'y a qu'un demi-cahier. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de texte, mais il y aura plein d'autres choses à faire. Voilà, ça me renseigne un peu là-dessus.
Il y a d'autres textes dont vous nous avez parlé pour visiter votre bibliothèque. Alors j'hésite à revenir un peu en arrière et à ces fleurs pour Algernon.
Ah oui, oui, oui.
C'est quoi ?
Ça, c'était une expérience sur un garçon un peu attardé mental. Et puis, on fait une expérience sur lui et il devient très, très, très intelligent. Et en parallèle, on fait la même expérience sur une petite souris. Et donc, la souris, elle devient de plus en plus éveillée aussi, apparemment. Elle trouve les labyrinthes pour arriver au petit bout de fromage très facilement. Et puis, au bout d'un moment, elle commence à régresser. Donc, le garçon comprend qu'il va aussi revenir finalement à... Son QI va baisser à nouveau, et donc voilà, c'était un truc très triste, je me souviens. Je sais que ça a été adapté au théâtre avec Grégory Gadebois, c'est Anne Kessler qui avait fait ça. J'avais malheureusement pas pu voir le spectacle, je crois que c'était très bien. Et voilà, c'était aussi pareil dans ces années où je faisais pas encore de théâtre, un des romans que j'avais lu, donc je m'en souviens, et voilà.
Ça ressemble à quoi ces années où vous ne faites pas encore de théâtre? Vous avez fait du théâtre tellement jeune qu'on vous associe à ça,
au théâtre. En fait, non, parce que j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Avant, je dirais observer.
Ah oui?
Ouais, très contemplatif.
Observer et peu lire, selon la légende.
Très peu lire, regarder beaucoup de films, mais en cachette un peu. Et puis, je pense que je prenais mon temps et... J'attendais mon heure pour tout à coup passer à l'action. Et je l'ai fait quand c'était plus possible de faire autrement.
C'est-à-dire ?
Bah, y a un moment où quand vous commencez à avoir redoublé deux fois et que vraiment ça n'avance pas, les parents se demandent vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce grand garçon. Et quand j'ai entendu le mot « bon, bah, tu vas peut-être devoir aller travailler au McDonald's », j'ai dit « ok, bon, il faut que je trouve un truc ». Donc
Mais vous mijotiez quelque chose du rapport au théâtre ?
Je me rends pas compte, parce que je pense que j'étais juste plus bloqué qu'au... Je crois que j'avais envie, parce que ça vient pas du tout par hasard, j'y crois pas. Mon père était acteur, donc je le suivais et je le voyais faire. Et peut-être j'attendais le moment, oui, je sais pas, il fallait qu'il se passe quelque chose, quoi. Et donc c'est un psychanalyste qui a dit, parce que j'allais voir des gens comme ça, et il a dit, bah, j'allais voir ça, ce genre de personne. Et il a dit, il faut qu'il fasse quelque chose, mais très gentiment, hein, pas du tout, j'avais pas l'impression d'avoir trop de problèmes, mais il fallait que je trouve une activité extrascolaire. Donc on m'a dit psychodrame, j'ai eu peur des deux mots. Je crois, j'ai dit « ah non, ça j'ai pas envie ». Il n'y avait plus de place, donc l'alternative c'était prendre des cours dans un conservatoire d'arrondissement de quartier. Et mon père m'a préparé et je suis rentré. Et donc à 16 ans, et après ça a été très vite. Parce qu'après, j'ai vu que bon, ça me plaisait déjà, et puis il y avait quand même la possibilité de passer le conservatoire national. Et si je réussissais, je voyais pas du tout à long terme, je voyais à court terme. Si je réussissais, bah je travaillais pas au McDo, quoi. J'avais une bourse pendant 3 ans j'étais tranquille. Et après c'est une autre histoire. Après on m'a repéré là-bas assez vite et je me suis dit bon bah je vais faire mon métier, quoi. Ça va être mon métier. Mais au départ c'était vraiment dans je me projetais pas du tout. Hein.
Donc, presque un pied du mur si on vous écoute, Michel Lescaut.
Oui, mais en même temps, c'est ce qui est bizarre, c'est que je pense que j'étais très sensible à ça. Mais peut-être que j'étais juste un peu empêché et qu'il fallait qu'il se passe une petite étincelle et puis voilà quoi. Mais ça passait pas par l'école et même le théâtre. J'étais dans un collège et un lycée plutôt chouette où il y avait une option théâtre et je voulais pas du tout. Enfin, je voulais pas faire ça à l'école. Il fallait que ce soit en dehors de. Il y avait un blocage sur l'école. Bon, bah voilà.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre rapport au théâtre, au fait de jouer, un rapport fort au texte ? Parce que finalement...
C'est ce qui est le plus important, en fait. C'est-à-dire, ça m'impressionne, mais en même temps, oui, c'est-à-dire que c'est ce qui me fait accepter ou pas un projet, quoi. Et le style, vraiment. Et même pas le rôle. Hein.
La langue.
La langue, exactement. La langue, le style. Et alors après, oui, ce qu'on a à jouer dedans, mais c'est vraiment la chose la plus importante. Après, il faut que ce soit accompagné d'une belle distribution, d'une metteuse en scène ou d'un metteur en scène fort pour éclairer tout ça. Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc finalement, j'ai pas beaucoup lu, mais c'est ce qu'il y a de plus important pour moi.
Oui, et au final, vous commencez à avoir un peu lu quand même.
Oui, évidemment.
Parmi les livres dont vous avez parlé comme étant les livres étapes, il y a ce gros livre de Flaubert.
Oui.
Bouvard et Pécuchet. Il arrive quand ? Il est où dans votre maison ?
Alors, Bouvard et Pécuchet, il est dans la bibliothèque. Non, il est bien. Enfin, il est dans les romans, dans les quelques romans que j'ai. Alors, non, j'en parlais parce qu'avec Jérôme Deschamps, en fait, quand Luc Bondy est mort, qui était mon meilleur ami, j'avais toujours plein de projets avec lui. Puis quand il est mort, je savais plus. J'étais complètement perdu. Et je me suis dit.
Donc, c'est un metteur en scène pour les personnes.
Oui, voilà. Oui, pardon, c'était un grand metteur en scène. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et il y avait un type qui m'avait donné envie de faire du théâtre quand j'étais adolescent, c'était Jérôme Deschamps, avec les Deschiens.
Bien sûr, et Macha Makeïev, les grandes représentations au théâtre de Chaillot,
exactement.
Je me rappelle très bien.
Et donc, moi, j'avais vu ça adolescent et j'avais adoré. Je me suis dit, il faut retourner à la source, finalement.
Pour de que cette tu joie.
Voilà. Pour que tu retrouves l'envie de faire quelque chose. Et donc, je lui ai fait savoir et on s'est rencontrés et il m'a dit, voilà, j'ai deux projets. Je lui ai dit, vas-y, parle-moi du premier. Il m'a dit, ça serait de faire Bouvard et Pécuchet. J'ai dit, voilà, c'est celui-là, on va le faire. Il m'a dit, mais attends, je ne t'ai pas encore proposé. Je lui ai dit, non, mais je te dis, on va le faire. Et on va le faire tous les deux. Et il a accepté. Et après, ça a été très heureux de travailler sur cette adaptation, comme il sait faire, c'est-à-dire avec ce style inimitable qu'il a, Jérôme Deschamps, et de partir en même temps de cette œuvre. Et donc, tous les jours, on lisait et on faisait des improvisations avec deux autres comédiens qui étaient super.
À la table, vraiment, avec chacun son livre ?
Ah oui, chacun son livre. Et puis, on prenait une situation du roman et on disait, alors la rencontre. Et puis, on y allait. Et en même temps, quand on était perdu, ce qui était très beau, c'est qu'on revenait au texte original. Finalement, il n'y avait plus beaucoup du texte de Flaubert, mais toutes les situations de la pièce étaient... je crois qu'il y avait l'essence même, oui, de ces deux caractères. Et donc, c'était un vrai hommage à Flaubert, finalement.
Alors, Bouvard et Pécuchet, 1881, c'est un roman inachevé qui est publié à titre posthume, signé Gustave Flaubert. La mise en scène, la première mise en scène, c'était 2016-2017, sous la direction de Jérôme Deschamps. Mmh. Est-ce que vous voulez bien nous lire, puisque vous reveniez régulièrement avec vos camarades de travail, Michel Lescaut, au texte, allons-y. On est où ?
Alors, on est au tout début du roman. C'est le tout début, c'est l'introduction, ouais, c'est vraiment le début. On avait gardé la première phrase d'ailleurs. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons, que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait au loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent, l'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi, et le petit bonhomme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, « Bouvard », pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ».« Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire nos noms dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considérèrent.
Waouh, voilà. Quelle entrée en matière.
Super.
Je vous en... ben évidemment, je ne vous regardais pas lire, mais je vous entendais sourire comme une sorte de délice du rapport à la langue. Vous les voyez se mettre en place. Exactement. C'est quelque chose qui vous fait...
Oui, puis je me souviens de tout de suite, c'est-à-dire si vous êtes avec la bonne personne, votre imagination part au quart de tour et c'est facile de jouer ça finalement, en se rapportant vraiment à ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est comme une chose qu'on peut jouer. De façon muette.
Oui, parce que là, ça paraît très littéraire et en même temps, on voit tout de suite la rencontre. Exactement. On voit deux hommes qui se rencontrent.
Voilà, on voit un grand, un petit, on voit des physiques, on voit un côté un peu ridicule. Et puis, tout de suite, ils parlent avec des espèces de banalités, mais en même temps, ça a un charme fou. Et je me souviens qu'à force de travailler ce texte avec Jérôme Deschamps, au bout d'un moment, on les prenait plus vraiment pour des imbéciles, on avait envie d'être le troisième, quoi.
Et de venir discuter avec eux.
Mais évidemment.
On et d'avoir vous ben oui, aussi, Michel Esco, marqué dans votre chapeau.
Exactement.
C'est marrant parce que vous avez commencé par dire que vous étiez un adolescent au désir assez indistinct ou un peu empêché. Et dans votre façon de raconter la rencontre avec Deschamps, de lui dire « Bonjour, quel est ton projet ? Bouvard et Pécuchet, ok, on y va. » C'est plutôt l'expression d'un désir très sûr dans le rapport au texte, dans le rapport au théâtre. Alors peut-être que des années étaient passées par là, et du travail avec Luc Bondy et tout ça, mais ça a l'air plus sûr.
Maintenant, oui, un petit peu plus sûr, mais en même temps, ça je le fais très rarement. Et quand je le fais, je me fais plutôt confiance, parce que c'est pas du tout quelque chose que je vais faire en général, je vais être plutôt timide. Mais de temps en temps, il y a une évidence, il faut que je dise quelque chose à quelqu'un, et je m'empêche pas du tout de le faire. Donc quand j'ai envie de parler, je le fais. Mais c'est rare.
Cette tournée, elle a duré longtemps, vous l'avez beaucoup joué, Bouvard et Pécuchet. Oui, ça devient quoi le rapport à un texte, le rapport à un livre, quand on a eu toutes ces heures sur un plateau à porter, d'une manière ou d'une autre, un texte vers les spectateurs?
C'est notre Bible au bout d'un moment, c'est-à-dire quand on est un peu perdu, parce qu'on se perd au bout d'un moment dans une représentation, on peut se perdre ou dans une adaptation. On essaie de revenir à l'essentiel, et là, l'essentiel, c'était le roman, finalement. Donc, nous, on avait notre adaptation, avec tous nos délires autour, mais de temps en temps, c'est bien de revenir à la source, et ça nous recadre, et ça nous remet dans le droit chemin, et on sait ce qu'on a à raconter, finalement. Parce qu'on avait vraiment le même amour de ce texte-là.
Il y a un autre grand texte qui, comme ça, ponctue votre parcours, et plus que ça, on peut presque vous associer, parce qu'on vous a entendu le dire, c'est Proust.
Les traces des souffrances que ma grand-mère avait endurées s'étaient effacées de son visage. La vie, en se retirant, venait d'emporter les désillusions de la vie. Sur ce lit funèbre, la mort l'avait couchée sous l'apparence d'une jeune fille. Bien que ce fût simplement un dimanche d'automne, je venais de renaître. L'existence était intacte devant moi. Profitant de l'absence de mes parents, partis pour quelques jours à Combray, je comptais ce soir aller entendre une petite pièce chez Madame de Villeparisis. Robert de Saint-Loup, qui avait été envoyé au Maroc pour oublier Rachel, qu'il n'aimait déjà plus, m'avait écrit qu'il avait rencontré à Tanger Madame de Stermaria, qui avait divorcé après 3 mois de mariage. Il lui avait demandé de ma part un rendez-vous. Elle dînerait volontiers avec moi, avait-elle répondu. J'avais donc écrit ce matin même à Madame de Stermaria pour lui proposer le jour qu'elle voudrait.
Il y a une visite pour vous, Mademoiselle Albertine.
Je peux entrer, je ne vous dérange pas.
Venez vite vous asseoir près de moi. Ils sont venus vers moi avec vous les jours passés de Balbec. Sur cette chaise, votre dos a l'air de dire « Dame, il n'y a pas de falaise ici. » Vous vous souvenez du jour sur la falaise où vous aviez mis tant d'ardeur à imposer votre idée de faire écrire par Sophocle « Mon cher Racine ».
C'est André qui avait raison. J'étais stupide.
Je sentais dans la même jolie fille qui venait de s'asseoir près de mon lit quelque chose de différent qui me faisait espérer que maintenant, peut-être, elle pourrait se laisser embrasser.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Michel Esco. Marie Richeux.
C'est un extrait du téléfilm À la recherche du temps perdu en 2011, réalisé par Nina Compagnès, qui était diffusé sur France 2. Michel Esco, pour évoquer cette autre livre étape. Quand on vous propose de, comme ça, nous ouvrir les rayonnages littéraires de votre bibliothèque, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust s'impose. Vous faites comme ça?
Oui,
bien sûr.
Non, parce que c'est une étape, oui. C'est-à-dire, dans la lecture, il y a avant et après avoir lu La recherche. Et puis pour moi, c'est vraiment un an de travail, en fait. Le fait, quand Nina Compagnès me l'a proposé, évidemment, j'ai dit, ah oui, il faut que je le relise. Je ne l'avais pas lu du tout. Donc, elle me dit, tu vas jouer le narrateur. Je savais de quoi ça parlait, mais de manière un peu superficielle. Donc, je ne savais pas que le narrateur, ce n'est pas juste un gars comme ça qui va faire... C'est le personnage principal, en fait, et on va le suivre tout le temps. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, tu as vraiment la meilleure occasion du monde pour le lire, c'est-à-dire que tu es payé pour le lire. Elle m'a dit, en plus, tu n'es pas obligé de le lire, tu peux lire que mon adaptation. Je me suis dit, mais si je ne le lis pas, je suis vraiment bête, là, pour le coup. Donc, j'ai pris 4 mois pour le lire.
Ça veut dire quoi, concrètement? Vous ne jouiez pas au théâtre à ce moment-là?
Si, je jouais. J'étais au Canada, je jouais au théâtre, et donc j'avais comme un sport, 2 heures de Proust par
quotidien.
Jour. Ouais. Pour lire 50 pages, il me fallait... j'avais calculé qu'il fallait que je lise 50 pages par jour et je n'arrivais pas à lire plus de 25 pages en une heure parce que sinon je serais passé à la diagonale et je n'avais pas envie. Il ne fallait surtout pas que je fasse ça. Et donc, comme un entraînement, 2 heures par jour. Et donc, en 4 mois, si vous faites ça, vous avez lu les 3000 pages. Et donc... Après, il a fallu apprendre beaucoup de... Parce que l'adaptation, c'était une adaptation, évidemment. C'était 4 heures, mais j'avais quand même des grands pavés. Et ensuite, le tournage a duré, je crois, 3 mois. Donc, tout ça, mis ensemble, ça fait presque un an. Et j'ai vécu à l'intérieur de ça pendant un an, ouais, vraiment.
Donc les gens n'iront probablement pas jouer Marcel Proust pour Nina Compagnès, mais... pour celles et ceux qui n'ont jamais, ne serait-ce que mis un tout petit orteil dans « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, comment est-ce qu'on peut décrire cette expérience? Qu'est-ce que ça vous est de faire ça 2 heures par jour?
C'est-à-dire qu'au départ, on a très peur parce que c'est des œuvres comme ça qui vous impressionnent et qu'on les cite à chaque fois. Et puis, vous ne vous sentez pas du tout légitime d'interpréter ça. Et puis, moi, je ne sais pas, j'avais l'impression de jouer Jésus-Christ, quoi, enfin la Bible. Quoi. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, en fait, plus vous travaillez, plus vous plongez à l'intérieur de l'œuvre et plus vous vous sentez légitime. Et finalement, vous vous dites, mais comment il me connaît aussi bien? Que vous soyez un garçon ou une fille, d'ailleurs. C'est ça qui est génial.
Vous vous souvenez à quel égard, par exemple? À quel moment vous vous êtes dit, ah, mais c'est si juste, c'est...
Ah, mais c'était violent même. Parfois, je prenais le livre et je le jetais contre le mur parce que je disais, mais c'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à conceptualiser. Et par exemple, il dit qu'il faut jamais dire qu'on a été voir un spectacle. C'est vraiment un détail, mais il dit, il faut jamais dire qu'on a été voir un spectacle si on n'a pas été, parce que ce soir-là, il y a peut-être eu un événement qui fait qu'ils n'ont pas été au bout de la pièce. Enfin, je sais pas. Et ça, c'est un truc que j'ai pensé 1 milliard de fois et je me dis, ne mens pas. Si tu n'as pas été, tu dis pas que t'as été. Bref, et même ça, il avait l'intelligence de le décrire génialement. Et voilà, donc vous sentir très légitime, et puis oui, de dire, mais c'est fou, si j'avais su ça à 20 ans, peut-être j'aurais évité quelques bêtises, ou je sais
su
pas.
Quoi su dire les choses, ou su que ça existait, ou...
Oui, et puis su que, par exemple, ce sentiment-là, même s'il était un peu honteux, ça vous fait du bien de l'assumer et de savoir que quelqu'un d'autre l'a traversé et en a tellement bien parlé et vous assumez plus de choses, quoi. Et c'est vrai que c'était au niveau, oui, de la légitimité. Parce qu'on se sent, moi, je me sens tout le temps illégitime dans tout ce que je fais. Et puis là, quand même, quand on lit ça, on dit, mais il y en avait un autre avant moi.
Oui, peut-être parce qu'il en parle aussi, mais oui, de cette façon d'être à part. C'est marrant que vous parliez du fait de l'avoir lu au Canada. Mmh. C'est comme souvent monté comme étant un monument de la littérature française. Qu'est-ce que vous aviez? Je ne sais pas si vous étiez dans un bain plutôt anglophone ou plutôt francophone.
Non, francophone.
Francophone.
J'étais au Canada.
Qu'est-ce
au
que
Québec,
vous aviez comme rapport à cette langue-là? Je ne sais pas, d'avoir rendez-vous avec un livre comme ça tous les jours, c'est aussi vivre dans une certaine rythmique.
Complètement. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un travail préparatoire. Et puis, au bout d'un moment, vous êtes dépassé par les petites choses que vous avez à faire. Et puis, je pensais même plus à ce qui allait se passer au bout d'un moment. Après, je vivais à l'intérieur de ce roman et je faisais des équivalences toute la journée en me disant, telle personne, c'est la comtesse de Villeparisis, ça, c'est Charlus, ça, c'est Saint-Loup. Enfin, je jouais à ça toute la journée. Ah, voilà, Albertine. J'avais une vie parallèle... comme un mec qui ferait trop de jeux vidéo et qui serait un no life, quoi. Enfin, j'avais, mais sauf que moi, c'était la recherche du temps perdu et je trouvais ça. C'était vraiment un monde, hein, un univers, et je faisais des équivalences avec ma vie toute la journée. Et ça devenait très, très drôle et grisant. Et donc, voilà, vous partez d'un devoir et puis au bout d'un moment, ça devient un plaisir. Bon, bah, quand c'est comme ça.
Et c'est la seule fois où vous avez eu cet aparté si fort qu'un texte littéraire peut ouvrir comme ça, comme une sorte de couloir parallèle dans la vie?
Sur un roman, je dirais oui. Sur un roman. Après, avec des écritures au théâtre, non, j'ai déjà eu ça aussi. J'ai eu d'autres expériences comme ça. Mais oui, oui, sur un roman qui au premier abord, allait être un peu, je sais pas, laborieux à lire ou quoi. Oui, c'est presque la seule fois où j'ai dû me forcer un tout petit peu au début et j'ai été tellement récompensé. Ça m'a fait cette sensation-là pendant plusieurs fois d'ailleurs dans le roman, même dans Guermantes, qui est un peu plus long. Enfin, il y avait une soirée, je dis j'en peux plus, puis il retourne dans une autre soirée, je me dis non, c'est pas vrai. Et en fait, après, il va passer chez Charlus et il y a la scène la plus marrante et la plus surprenante qui puisse arriver. Et je me disais, mais il me récompense tout le temps.
Il se passe quoi dans cette scène surprenante et marrante?
Il va chez Charlus en pensant qu'il va être très bien reçu et Charlus lui fait une espèce de crise de jalousie qu'il a pas vu venir et c'est ultra drôle parce qu'il l'insulte et finalement, le narrateur prend la mouche et c'est lui qui se met à insulter Charlus et Charlus lui court après. Enfin, on a une scène hyper croustillante alors qu'au départ, on se disait, mais ça a été un peu long quand même. Mais je pensais à ça parce que j'ai entendu quelque chose l'autre jour. Genet qui lisait ça et il dit, je crois qu'il était en prison quand il a lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il disait, ben là, on va aller de merveille en merveille. Mmh. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'allais de merveille en merveille, quoi.
Alors, c'est aussi un extrait d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs auquel vous pensiez sans nécessairement vouloir nous le lire, oui. Michel Esco, mais peut-être à l'évocation d'un personnage en particulier.
Oui, c'était le directeur de l'hôtel qui était très, très drôle parce qu'il dit il veut tellement bien faire avec tous ces gens de la haute société dans son hôtel, mais il parle pas très bien, en fait. Et souvent, il dit un mot pour un autre, alors il dit... Il dit commotion à la place de locomotion, il dit titré pour attitrer, il dit fixure pour fissure, il dit consommer pour consumer, postiche pour potiche. Et puis à un moment, bon, il dit par exemple, ce qui manque ici, disait le directeur, ce sont les moyens de commotion. Et ensuite il dit, le directeur était venu en personne m'attendre à Pantacouleuvre, répétant combien il tenait à sa clientèle titrée, ce qui m'y fit craindre qu'il m'adoublie. Jusqu'à ce que j'eusse compris que, dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, « titré » signifiait simplement « attitré ».
Vous avez beaucoup ri, Michel Esco, en lisant À la recherche du temps perdu ?
Énormément. Et surpris, quoi. Enfin, je pensais pas que j'allais rire autant. Et je riais vraiment. Et en plus, après, je me disais, en plus, tu vas devoir jouer ça. Ce qui était génial, c'était la récompense suprême. Et d'ailleurs, on a ri beaucoup en le travaillant après avec Nina Campanès. Non, c'était vraiment aller de merveille en merveille dans le sens où j'étais tout le temps récompensé, quoi. Finalement, j'avais lu une grande œuvre, j'allais pouvoir travailler ça, et c'est pas facile à faire, hein, mais oui, ça vous apporte quand même énormément. Puis après, je sais pas si on est différent ou quoi, mais moi, j'avais... avant et après, quoi.
Il est question du langage dans cet extrait-là, oui. De l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et évidemment, la question de la lecture, c'est aussi la façon dont petit à petit, on enrichit son propre langage, comment on parle, comment on affine sa possibilité de dire. Mm-hmm. Vous diriez que vous avez quoi, alors que c'est votre outil quasi quotidien, Michel Esco, comme rapport avec le langage, avec les mots?
En fait, moi, j'essaie de rentrer dans l'univers, en étant comédien, interprète. Moi, j'essaie vraiment... Interprète, c'est pas mal, quoi, parce que finalement, j'essaie d'être un vecteur par lequel passe la parole d'un auteur et je la transmets. Donc, en fait, je dois être perméable au style d'un auteur et en rendre compte le mieux possible. Alors après, ce qui se détermine, c'est dans mes choix. Est-ce que j'ai envie de jouer ça ou ça? Mais voilà, moi, je dois me... C'est vrai que je m'en rapporte à la manière dont c'est écrit, dans le style, quoi. Et j'essaye de rentrer à l'intérieur de ça. Après, il y a tout un travail physique, mais finalement, ça va très, très bien ensemble.
Oui, mais est-ce que ça impacte votre façon de vivre avec les mots si on sort du théâtre, si on sort du cinéma et des tournages? Le fait de tant fréquenter les mots, de les recopier sur des cahiers, mm-hmm. a fait que vous avez aujourd'hui un rapport avec la parole qu'on pourrait dire plus singulier que quelqu'un qui, je sais pas, fait du pain ou fait des chaises ou fait autre chose.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je vais parler d'une certaine manière pendant que je travaille telle œuvre. Et si après, je vais passer sur quelque chose de plus contemporain et de
comme
moins...
Comme un mimétisme un peu.
Bah oui. en fait, oui. Comme quand vous passez un petit peu de temps avec des gens qui ont un accent, vous avez l'accent, et puis après vous le perdez. Moi, ça fait ça, en fait. Ça fait ça. Je pense que quand je travaillais sur Proust, ouais, je devais parler pas mal. Et puis après, quand je travaille sur Coltèche, j'essaye de parler un peu plus. Mais finalement, c'est très poétique aussi, mais plus comme un voyou, quoi.
Alors, on y va justement, Coltès. Ouais. Vous êtes venu avec Key West, paru aux éditions de Minuit. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'état de cette couverture, Michel Esco?
On dirait qu'elle est passée à la machine à laver.
Exactement, déjà, dans un premier temps, je suis d'accord, ce qui n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elle est restée dans mon sac pendant très longtemps, je pense. Parce que, oui, il y a, dans les endroits où il y a des livres, il y a mon sac aussi, mon sac à dos. Et donc, celui-là, je pense qu'il est resté longtemps. Et puis, il y a des petits dessins. Voilà, je fais des petits dessins. Et voilà, quoi, c'est bien le mien, quoi. Voilà.
Ouais, alors, quelle est l'histoire de votre rapport? C'est pareil, ça fait partie des textes que vous avez dit avec évidence constituer des moments importants dans votre bibliothèque.
Bah ça, vous avez 17 ans, vous commencez à faire du théâtre, et puis un jour, vous tombez là-dessus et vous rêvez, parce qu'il y a tout un univers autour de ça. Il y a Patrice Chéreau, il y a Nanterre, il y a les Amandiers, il y a une époque, les années 80, un truc un peu dangereux comme ça. Et puis on a tous, enfin tous les gens de ma génération, on a fantasmé là-dessus, et puis vous
sur
rêvez...
Sur quoi? Sur Bernard-Marie Coltès?
Oui, sur cette figure, sur New York, sur le milieu comme ça, un peu dangereux, les bas-fonds, je sais pas, tout un truc. Après, avec des choses dramatiques, le sida, l'Afrique, enfin, je sais pas, il y a eu toute une image comme ça, et puis quelque chose de très urbain aussi, et finalement, arriver à faire venir la rue au théâtre, et en même temps, une poésie, c'est-à-dire pas du tout quelque chose de réaliste, mais voilà, je pense que à mon époque, on rêve tous de jouer ça. Et moi, j'ose pas le faire. Même en cours, je veux dire, je passe pas les scènes et tout, je dis, oh là, non, ça c'est génial, mais j'ai pas droit. Mais vous rêvez quand même de le faire, et 30 ans après, vous le jouez au théâtre.
Donc c'est un texte de 1986, et vous le jouez, j'imagine que c'est cette mise en scène que vous évoquez en 2021 sous la direction de Ludovic Lagarde.
Voilà, mais moi je l'ai lu en 96 peut-être, 10 ans après. Et oui, c'est ça, 10 ans après peut-être. Et donc... Bah ouais, presque 30 ans après, vous le jouez, Ludovic Lagarde vous le propose et vous dites oui tout de suite, alors que vous n'avez plus vraiment la pièce en tête, mais vous avez un reste du choc que ça vous a provoqué, et puis vous avez la chance d'avoir cette proposition et vous plongez là-dedans avec joie. Et après, pareil, alors il vous fait la proposition au café, vous rentrez, je rentre chez moi, et puis tout de suite je lis et je dis...
Vous aviez toujours... C'était cet exemplaire-là?
Peut-être. Ou alors peut-être j'ai été l'acheter juste en face, parce que je l'avais peut-être plus chez moi. Donc je pense que oui, j'ai été l'acheter tout de suite. Et puis je suis rentré chez moi, et vous commencez à lire en vous disant oh, mais je vais avoir la chance d'interpréter ce truc-là. Plus que le rôle, c'est cette... alors si, c'est quand même le rôle, mais c'est cette écriture-là, ce qui fait dire à ce personnage-là à ce moment-là.
Mais est-ce que c'est aussi une fidélité à l'enthousiasme du tout jeune homme et au rêve du tout jeune homme? Je pense aussi au rôle que vous jouez dans Les Amandiers, ce film qui brosse aussi cette époque-là de Valéria Bruni-Tedeschi. On est en plein au Théâtre des Amandiers à Nanterre et tout le monde brûle du théâtre. Il se trouve que vous jouez ça après y avoir fantasmé. Michel Esco, c'est un peu rigolo la vie quand même.
C'est rigolo la vie, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je suis tout le temps rassuré quand on se rapporte à ces années-là, parce que je me dis, bon, bah là, tu peux pas mentir, tu as vraiment envie de faire ça, t'es absolument pas blasé, tu crois encore à plein de choses, t'es naïf, donc ça te met dans un endroit plutôt bien, quoi, je pense, pour aborder le travail. Et oui, ça me rassure quand ça se rapporte à l'adolescence, enfin, disons, à la mélange de naïveté et de fougue qu'on a, et le fait que dans ces moments-là, tout est possible, quoi. On n'a pas de barrière.
On lit un petit extrait de Key West, ou un grand extrait de Key West. Est-ce que vous voulez bien nous dire où est-ce qu'on se trouve?
Alors Charles va parler à Abad, qui est son ami. Abad, c'est un grand noir qui ne parlera pas pendant le spectacle. Il parlera que à l'oreille de Charles. Et dans quelques scènes avant, Charles a demandé un peu d'argent à Abad en lui disant « T'es mon meilleur ami, on va faire du business ensemble et ça va être formidable et on va faire des choses extraordinaires. » Et là, deux scènes après, il va juste le trahir d'une manière tellement cruelle, en lui expliquant pourquoi il le trahit, et que le comble de la mauvaise foi, en lui disant « c'est de ta faute, en fait ». C'est
hey, ta faute. Ouais. Ça me rappelle Victor.
Un peu, c'est vrai.
Victor est la bonne de c'est tout vrai, à l'heure, Michel Esco.
Adieu Morico, je cherche Fac et quand je l'aurai trouvé, je me barre avec la voiture, seul. Ne fais pas de conneries avant que je sois parti, ne réfléchis pas trop, ne t'énerve pas, ne bouge pas jusqu'à ce que je sois parti. Je te demande cela et tu me le dois bien. Je t'ai appris tout ce que je savais, Morico. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Quand tu es arrivé ici, tu te cachais et je t'ai pas posé de questions. Mais ce qu'on donne un jour, on a toujours le droit de le reprendre. Il y a qu'à soi-même qu'on donne pour de bon. À un autre, on prête. Et il faut bien qu'il rende un jour. Aujourd'hui, c'est à ton tour de rendre, Morico. Alors jusqu'à ce que la Jaguar reparte et je serai dedans, Morico, tu peux me croire. Ne bouge pas, ne t'énerve pas, ne fais pas de conneries. Cherche pas à comprendre. Le ferry du soir peut-être viendra et tu pourras le prendre et reprendre le travail, même si tu es tout seul pour reprendre le travail. Moi, je change de côté, je file au port, je travaillerai au début comme Cory dans une boîte, je me ferai du pognon et on ne me verra plus ici. C'est tout simple comme cela, mon vieux, on va chacun de son côté. Peut-être qu'on a travaillé ensemble jusqu'à maintenant, Morico, et c'était bien. Mais maintenant, on peut plus travailler comme avant, alors il est peut-être temps qu'on fasse notre business séparé. Peut-être qu'on a été comme des frères, oui, mais peut-être aussi qu'il est temps qu'on se sépare. D'ailleurs, tu comprends jamais ce que je te dis, et moi je comprends rien à ce que tu penses. Tu fais toujours comme je pense que tu penses que t'as pas envie de faire, et après tu corriges. C'est comme ça que je crois comprendre que tu marches. Mais tu pourras pas toujours corriger, Morico. Finalement, j'ai jamais rien vraiment compris chez toi. Alors toi non plus, cherche pas à comprendre, et reste là, reste tranquille. De l'autre côté là-bas, c'est le haut. Ici, c'est le bas. Ici même, on est le bas du bas. On peut pas aller plus bas, et y a pas beaucoup d'espoir de monter un peu. Le plus haut qu'on montera, de toute façon, on sera jamais rien d'autre que le haut du bas. C'est pour ça que je préfère changer de côté, Morico. Je préfère aller là-bas, je préfère être là-bas, le bas du haut, qu'ici, le haut du bas. Cherche pas à comprendre. J'ai jamais travaillé, Morico, jamais. Je sais même pas comment on fait. Le travail d'esclave, le travail honnête, je sais rien de cela. J'ai jamais eu de patron, moi. Jamais servi, jamais obéi. Et pourtant, c'est ça que je vais faire maintenant. Je change de bord. Tu peux pas comprendre. C'est vrai que toi, t'as pas vraiment le choix, Morico. Il y a trop de chemin à faire pour toi passer de l'autre côté. Alors peut-être que le ferry s'arrêtera comme avant, que tu continueras à travailler tout seul, que tout sera comme avant pour toi. Et peut-être que non, mais je veux pas le savoir. Il te reste Fac, alors t'es pas perdu. De toute façon, même ça, je veux pas le savoir. Fallait bien un jour ou l'autre que ça foire pour toi, Morico. T'as eu un sursis et je t'y ai aidé, mais un jour ou l'autre, fallait bien que ça foire. Quand ils ont coupé l'eau, j'ai tout de suite compris que ça allait foirer pour toi, mon vieux. Il y aura plus d'endroit pour te planquer, Morico. T'as le sang trop pourri et ici, ils font aucun effort pour comprendre ceux qui ne parlent pas. Va falloir que tu paies, Morico. Eh ben, tu paieras. C'est normal. Je peux pas payer à ta place et il y a pas de raison pour que je paie avec toi. C'est pour ça que je dégage. On est tellement vieux, Morico. Tellement vieux déjà. Et on a tellement de retard, mon vieux. À plusieurs, on perd trop de temps. Faut essayer de rattraper tout seul. Regarde le gars de 15 ans aujourd'hui. Il fait à 15 ans ce que nous on faisait à 25, il a déjà plus de pognon que nous. Quand nous on travaille avec les points nus, les morveux de 15 ans travaillent au point américain. Quand on découvre le point américain, ils en sont au couteau. Et quand nous on se met tranquillement au couteau, eux ils en sont déjà à l'arme à feu. Tous ils sont partis les uns après les autres et quand ils reviendront, ils seront les rois et on sera leurs esclaves. Alors je préfère dégager. L'avenir, mon vieux, c'est le travail honnête. Finalement, c'est bien l'honnêteté. Finalement. Moi j'aime bien. En tous les cas, c'est là qu'est le pognon. Toi, t'es trop con, Morico. J'arrive pas à savoir ce que tu aimes vraiment, mais ce que je sais, c'est que t'es trop con. Je crois que tu n'aimes rien, que tu n'as jamais faim. Moi, j'aurai toujours faim, toujours. Même quand j'aurai plus de place pour ranger mon pognon, j'aurai encore faim. Celui qui arrête d'avoir faim, il est déjà mort. Moi, je crève de faim et toi, t'es déjà mort. Alors, ça peut pas coller ensemble. T'as jamais senti l'odeur du pognon, Morico? Je l'ai senti tout à l'heure quand j'ai entendu le bruit de la voiture. Le pognon, je le sens avant même qu'il arrive, avant qu'il soit dans la poche, avant même qu'il soit dans le coffre des banques. Les billets, j'en sens l'odeur avant même que les billets ne soient imprimés. J'aime bien. En tous les cas, c'est ça que j'aime le mieux au monde. Si t'avais voulu, Morico, si tu l'avais voulu, mon vieux, on aurait travaillé avec une arme et on serait les rois. Mais t'es vraiment trop con. Un flingue, Morico, ça te demande pas de service, ni de te lever le matin, ni de venir à l'heure, ni que tu le respectes, ni que tu lui dises monsieur, ni que tu lui cires les bottes. Il t'oblige pas à travailler, ni à suer, ni à obéir, ni à te fatiguer. Il te force à rien, il te donne tout ce que tu veux. C'est lui le seul patron que j'aurais jamais voulu avoir. Celui qui n'est pas armé aujourd'hui, c'est un esclave, Morico. T'es un esclave, puis t'es trop con, je veux plus te voir. N'oublie pas, Morico. N'oublie pas de rester tranquille jusqu'à ce que j'ai trouvé Fac, jusqu'à ce que je sois parti, et de ne pas trop réfléchir, Morico, pour ne pas faire de conneries. N'oublie pas que c'est ton tour, Morico. Je dégage. Adieu.
C'est fou.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est un texte de 1986, on le disait, moi j'ai quand même... C'est vous, ce que je vous écoutais, je revoyais quand même la mise en scène de Ludovic Lagarde. Mmh. Et je me disais, comment c'est possible d'avoir joué ça, d'avoir porté ces mots sur scène, de les avoir tant vécu. Mmh. Et là, de pouvoir le faire juste à table, avec un livre, sans que ça retraverse le corps avec intensité, quoi.
Bah, en fait, c'est pour me faire plaisir. Parce que dans les questions que vous posez parfois à vos invités, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Bah, ça me manque, en fait. C'est très rare. Mais ça, tout à coup, ça m'a manqué. Quand on a arrêté de jouer la pièce, j'étais pas bien, en fait. Il m'en fallait encore un peu plus. Donc aujourd'hui, c'est comme si je m'étais offert
un petit shoot de Coltès
de rappel. Ouais, vraiment.
C'est étonnant. Qu'est-ce qui vous manque? C'est le personnage qui vous manque? C'est la puissance de cette langue?
Je crois que c'est la puissance de la langue et puis ce qu'il fait dire aux jeunes. Par exemple, j'adore ce qu'il fait dire aux parents, mais je voudrais pas jouer les parents. Même si j'ai l'âge de jouer les parents. Je sais pas, c'est comme il fait parler les jeunes gens. Je crois qu'il est plutôt de leur côté à eux. Et il y a quelque chose qui me touche complètement. Et même s'il est un peu salaud ou quoi, je sais pas, je le comprends, je le ressens, quoi. Je le ressens. Il y a une phrase comme ça dans Victor ou les enfants au pouvoir où le père dit il faut comprendre, je veux comprendre. Et le Victor lui dit il faut sentir, papa, il faut sentir. Bon, c'est comme une phrase un peu. Qui vous marque, quoi. Et bref, là-dedans, voilà, c'est pareil. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais j'ai l'impression de savoir intimement de quoi il parle.
Oui, en tout cas, il y a quelque chose de l'énergie du texte qui parvient, vous le dites, au point que je me disais, mais est-ce que vous lisez parfois chez vous à haute voix, Michel Esco? Est-ce que ça fait partie de votre pratique de la lecture, y compris quand vous ne travaillez pas des textes pour le théâtre?
Oui, quand je suis un peu fatigué ou quoi, je me mets à lire à haute voix. Comme ça, ça me réénergise un petit peu, oui.
Ouais. Ça tient à quoi? C'est étrange, non?
Bon, je pense que c'est l'expression orale. Enfin, j'ai l'habitude, quoi. Je pense que c'est comme ça. Et puis moi, en fait, toute la journée, je fais des italiennes. Les italiennes, c'est quand on récite son texte du soir, tout seul, en faisant un peu plus rapidement. Voilà, c'est un exercice plus que de mémoire, c'est de l'articulation, en fait. Et ça, en fait, c'était un truc d'articulation. C'est comme quand on travaille Shakespeare. Ça me fait beaucoup penser à Shakespeare, Coltès. Il a traduit d'ailleurs le conte d'hiver pour Luc Bondy. En fait, c'est pas souvent. On pense que les acteurs, c'est compliqué, la mémoire, tout ça. Mais c'est plus l'articulation, en fait. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de qu'on se répète son texte toute la journée. C'est pour avoir les muscles nécessaires à bien articuler un texte qui est quand même pas facile à sortir, quoi. Il est très écrit, hein, finalement. Et c'est génial parce qu'on a ce fantasme en disant. Ouais, Coltès, quand on est jeune, on dit ouais, c'est hyper naturel. C'est pas du tout naturel, c'est ça qui est génial, quoi.
On a l'impression, en vous écoutant, plus ça va, que y a un rapport, certes, de pensée littéraire à tous ces textes, mais très lié au corps, en fait.
Oui,
vous parlez beaucoup de ce que ça vous fait à vous dans la vie, Michel Esco, de fréquenter tous ces textes-là.
Complètement. Parce que j'ai pas de. Enfin, c'est pas que je suis autodidacte, vraiment, mais disons que quand je dis que j'aime vraiment quelque chose, c'est parce que ça a provoqué quelque chose en moi. C'est pas parce qu'il faut le dire. Mais j'avais remarqué que quand j'avais travaillé avec Roger Planchon, qui était un peu mon maître, et qui était lui vraiment autodidacte, je crois qu'il a jamais été à l'école, il était devenu très très érudit, et puis on travaillait sur Marivaux, et il s'arrêtait au milieu, il disait, ah, oh, c'est vraiment un bon auteur, Marivaux. Mais il le disait parce qu'il le pensait, quoi.
Parce que ça le percutait à ce moment-là.
Ouais, ça le percutait à ce moment-là. Et je me disais, putain, c'est génial. Il le dit pas parce qu'il faut le dire, quoi. Et donc, voilà, il dit ce qu'il a envie de dire, quoi. Je crois qu'il y a une phrase comme ça du Billard où il dit, il vaut mieux parler comme on veut que comme il faut. Ou alors je vais me taire.
Décidément, ça revient beaucoup dans cette bibliothèque, Michel Esco.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on a fait tous les livres étapes.
Eh ben voilà.
On n'a oublié personne.
Non, je crois pas.
Alors moi, je me disais que comme vous avez évoqué, vous l'évoquiez aussi encore à l'instant, cette amitié avec Luc Bondy.
Oui.
Parfois, quand il parlait de la lecture, il disait qu'il était volontiers adultérin, qu'il pouvait prendre un livre, le quitter, tromper, avoir une grande liberté avec tout ça. Est-ce que ça faisait partie des choses dans cette amitié particulière quand même que vous avez eue avec Luc Bondy? Ça vous fait sourire?
Parce qu'on avait un jeu, en fait, on allait tout le temps, Luc, il disait viens te promener avec moi, et en fait il allait à la librairie, il fallait l'accompagner, et on avait un jeu débile, mais enfin pas débile, mais ça me touche maintenant, et donc lui il choisissait ses livres, et moi je prenais les livres les plus nuls, enfin celui qui allait le faire rire, et je venais toujours à côté de lui, j'avais toujours 3-4 livres, ça allait de la biographie de Marine Le Pen, enfin toujours des choses impossibles.
En passant alors, à la caisse, vous voulez dire, en vous
bah oui, et puis je lui disais toujours, bon bah moi c'est bon, j'ai ce qu'il faut, et lui il savait qu'il fallait regarder dans ma main, il disait ah, et donc on riait, puis après j'allais les reposer, puis on partait.
Pour moi, la littérature, c'est quand même, sans se plaire à soi-même, avoir à écrire. Je vais beaucoup dans les librairies, je feuillette. Quand on va dans l'écume des jours, et puis on touche un livre, on veut toujours tout de suite le posséder. Il y a un érotisme évident qui part de la couverture d'un livre, d'un nouveau roman américain. On ouvre, on voudrait avoir une chaise et pouvoir continuer, puis à côté tout de suite. Et on a l'impression comme si on commettait un adultère d'un livre à l'autre. On trompe le livre de hier avec celui d'aujourd'hui. Je suis avec les livres très adultériens. Mais je me suis dit, peut-être, il faudrait que je trouve un gros livre de philosophie, un livre qui fait qu'on est un vieux texte où on peut se plonger lentement, où on lit des pages plusieurs fois, on essaye de comprendre. Ça, c'est l'idéal. Il faudrait partir de moi et faire ça seulement, c'est-à-dire essayer de rentrer dans la complexion d'une autre pensée.
C'était magnifique parce que c'était un directeur de théâtre, mais quand vous rentriez dans son bureau, il était tout le temps allongé en train de lire.
Donc, et il vous parlait de ce qu'il lisait ?
Tout le temps. Mais c'est vrai qu'il passait du coq à l'âne tout le temps, Luc. C'est-à-dire, il avait toujours 3 livres dans sa poche. Mais c'est comme quand il mangeait, c'était pareil. Il y avait toujours 3-4 plats, il picorait, quoi. C'était comme ça. Et en même temps, tout à coup, il était concentré, et là, ça devenait très, 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 très éclairé, quoi. Et même au cinéma, je pense que j'ai été 4 ou 5 fois, enfin plein de fois, même au cinéma avec lui, je me souviens d'un film qu'on a vu en entier.
C'est-à-dire, il partait,
ouais. Il partait en disant, c'est bien, hein, allez, on s'en va. Je me disais, mais c'est pas fini.
Je suis suffisamment nourri, en fait. Ouais, j'ai pas besoin de plus.
Ça suffisait. Ouais.
Ça fait partie des choses que vous aimez partager, vous, les lectures, en dehors de ce travail dont on a beaucoup parlé en visitant votre bibliothèque, Michel Escaut ?
Moi, j'aime bien qu'on me donne des conseils, en fait. Moi, je conseille pas beaucoup, mais oui, je suis très, très friand de conseils, oui. Et puis, je suis entouré de gens qui lisent énormément, donc on me dit des choses comme ça, c'est toujours très bien. Mon frère, notamment, enfin, quand je lui dis je vais travailler là-dessus, il me fait « Ah, il faut que tu lises ça et ça et ça ». Et je le fais, parce qu'il est...
Il est bon conseil.
Très bon conseil.
Est-ce qu'il existe une photographie de vous avec un livre à la main ?
Il y a une photo où je suis sur le ventre dans mon lit, tout petit, avec en lisant des bandes dessinées en fait. J'en ai lu pas mal, mais je suis pas resté tellement accroché à ça. Mais je me vois en train de lire une bande dessinée.
Et de vous adulte avec un livre à la main ?
Oui, il y en a une pas mal à Avignon où je lis La Métamorphose de Kafka et je suis avec des musiciens de Sid Matters que j'adore et voilà, ils sont de part et d'autre avec leur clavier.
Moi, je me rappelle de cette mise en onde.
Voilà, ouais. Et donc, ouais. Donc ça, la photo est pas mal.
Merci beaucoup, Michel Escaut. On sort de votre bibliothèque. On range les livres.
Allez.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde, avant qu'il n'y ait le monde. Et qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid.
Vous pouvez retrouver toutes les références des textes évoqués par Michel Escaut à la page des bibliothèques du Book Club sur le site franceculture.fr. Vous pouvez même réécouter toutes les bibliothèques du Book Club, pourquoi pas, via l'application Radio France. Au son aujourd'hui, c'était Noé Chaban, à la réalisation Vivien Demeyer. Merci à tout le reste de l'équipe du Book Club, Alexandra Lajbegovic, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Mathilde Wagman et Léa Weisgruss.
pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut.